Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Parole de femme. Virginie Kamwene, bonjour et merci beaucoup d'accepter cet entretien téléphonique avec le monde au féminin de VOA Afrique.
Bonjour Nathalie, je suis très très ravie, merci beaucoup.
Vous êtes d'origine congolaise, vous êtes psychothérapeute dans une clinique de santé mentale à Lawrence, dans le Massachusetts, ici aux États-Unis. Vous êtes également présidente fondatrice de Merrimack Valley Clinic, qui est spécialisée en sciences appliquées sur l'autisme. Vous recevez dans votre cabinet et vous faites notamment des consultations virtuelle. Donc ici aux États-Unis, vous apportez un soutien en particulier aux personnes originaires d'Afrique et aux minorités en quelque sorte, d'une manière générale. Pourriez-vous nous dire quel type de soutien vous apportez et quelles sont effectivement les personnes qui viennent consulter chez vous ?
Nous travaillons avec une diversité de la population. Nous rendons des services aux familles qui ont des problèmes des divorces, de mariages. Nous donnons des services aux enfants qui sont traumatisés, insuffisance d'attention à l'école. Personnellement, je navigue dans des écoles que nous avons des contrats, surtout pour les enfants, avec leur comportement. Nous allons inclure leurs familles s'il y a des problèmes, des conflits, des dépressions, des anxiétés, avec toute l'expérience que j'ai acquise. Aussi pensant à atteindre la population africaine ici aux États-Unis, que je vois des enfants qui ont des problèmes dans des écoles, des familles, faire un peu de médiation. Et aussi, je suis spécialisée en l'étude de sciences d'analyse appliquée avec les individus diagnostiqués avec l'autisme.
Dans ces familles immigrantes qui se retrouvent ici aux États-Unis et qui peuvent rencontrer divers types de problèmes, qu'est-ce que vous avez noté en particulier, notamment au sein des familles?
Pour les familles africaines que je vois ici, il y a beaucoup de problèmes, surtout les problèmes de la culture. Quand les familles immigrantes arrivent à l'Amérique, c'est vraiment difficile de s'adapter avec le système académique américain. Les enfants ont des difficultés des fois. Il y a la langue anglaise qui est comme une barrière pour que les enfants s'intègrent au sein des enfants américains. Alors, dans les familles inafricaines, chez nous, nous acceptons jamais la santé mentale parce que nous sommes liés à des religions, à des cultures. Nous ne croyons pas à ça. La santé mentale, c'est vrai et c'est pour tout le monde. Quand on reconnaît des signes comme des enfants que je vois africains, à l'école, ils ont beaucoup de problèmes. À la maison, ils ont des conflits avec leurs parents. Ils prennent des décisions qui n'est pas vraiment sécurisant. Il y a des enfants qui ont de dépression aussi, l'anxiété. Je me rencontre avec les parents à travailler, à aider les parents à comprendre les difficultés que leurs enfants ont en vivant dans le milieu américain. Parce que le parent africain, des fois, nous sommes très, très autoritariens. On n'est pas à l'écoute de nos enfants. Et ça, ça crée des émotions mentales. Donc, c'est surtout dans ce cadre-là, même si aussi dans le cadre des conflits dans des familles. Je travaille aussi plus avec les enfants qui sont admis sur le système des cours juvéniles pour les adolescents.
En ce qui concerne concerne les femmes, est-ce que vous avez noté en particulier des cas qui seraient dus là aussi à la culture, voire des femmes qui n'osaient pas trop s'exprimer?
Je vois aussi des femmes africaines comme moi qui sont en train d'endurer des violences domestiques et des violences émotionnelles, surtout les femmes immigrantes. Quand on s'immigre ici en Amérique, ils n'ont pas une voix de s'exprimer de tout ce qui se passe dans la maison. Quand on s'exprime, on voit la communauté. Le femme en père de la communauté, ma communauté va dire que c'est l'homme qui t'a amené ici, tu ne peux pas répliquer de cette manière, tu dois te soumettre avec la culture africaine, tu ne dois même pas parler de tes droits. Alors, j'encourage les femmes d'avoir une voix, de parler, de s'exprimer, de commencer à examiner la vie qu'elles sont en train de mener dans leur maison. Essayer un peu de parler sur toutes ces violences émotionnelles et domestiques.
Alors, est-ce que vous avez noté une augmentation de ce type de violence, ou en tout cas de mal-être au sein des familles pendant la période de pandémie?
Oui, ça vraiment c'était une chose qui nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, Nathalie, parce que du matin au soir, face en face, les gens étaient confinés dans la maison. Ça a créé nombre de violences domestiques. Nous avons eu beaucoup de clients qui ont expérimenté ces violences domestiques. Dans la communauté, on n'en parle pas. Les gens ne prend pas soin de eux-mêmes en voyant leur souffrance, les gens ont peur de la communauté, de toutes les personnes qui les regardent, ils ont peur de leurs églises, mais ils souffrent, c'est pourquoi on voit beaucoup de suicides, des hommes tirent leurs hommes. Toutes ces situations, c'est parce qu'on essaie un peu de régler les problèmes dans la maison, on cache les difficultés qu'on a, on ne peut pas en discuter. Si tu en discutes ça dehors, ça devient un problème.
Lorsque vous voyez un couple qui serait un petit peu sur la pente de divorcer et vous sentez que là, il y a un moyen de raccommoder et de continuer à vivre ensemble et que peut-être ce n'est qu'une question culturelle, un changement de milieu et qu'il y a à travailler là-dessus?
Exactement, c'est ça, notre travail est basé sur ça. Quand on parle de la psychothérapie, on parle de thérapie pour le couple, thérapie pour la famille, thérapie pour les individus. Nous, on n'encourage pas le divorce. On encourage plus les communications, la compréhension, quelles sont tes émotions. Et ton partenaire doit valider tes émotions. Quand vous stockez tes émotions, vous ne voulez pas vous exprimer, ça doit créer des chaos à la fin. Alors, je fais une médiation. On le voit ensemble, on travaille avec eux pendant 3 mois, pendant 6 mois. Ça donne une réussite que tu vois que les familles doivent appliquer tout ce qu'ils apprennent.
Est-ce que vous avez dans vos patientes des femmes qui vous parlent des problèmes de l'excision et notamment des jeunes filles, des filles qui ont été excisées, qui risquent de l'être?
Exactement, Nathalie. Le travail que moi je fais, c'est un travail mentalement qui m'affecte moi-même parce que nous sommes des sources des investigations. C'est pourquoi nous travaillons avec la cour, c'est pourquoi nous travaillons avec les prisons, nous travaillons avec les enfants qui sont sexuellement traumatisés. Tous ces gens-là, quand ils viennent, tu dois accumuler toutes ces informations-là et les donner de l'aide qu'ils ont besoin, leur donner des ressources et toi aussi comme une psychothérapeute, être là pour eux, les assister mentalement, socialement et puis les connaître avec d'autres ressources qui sont vraiment très importantes pour qu'elles obtiennent des services dans ce sens-là.
Est-ce que vous rencontrez encore des familles qui viseraient à forcer leurs filles à être mariées à un très jeune âge?
Oui, nous travaillons avec une diversité de problèmes. Je pense que les Africains qui sont acculturés en Amérique et même à toute la population, qu'ils soient blancs, hispaniques ou noirs. Il y a des cas pareils pour un mariage porté ici avec la population, par exemple, hispanique. Ça s'est fait surtout pour les documents. Je vois aussi la population libanaise qui parle français. Je vois des populations indiennes, vietnamaises. Tu vois, j'ai des cas, par exemple, la population indienne. Si vous avez une jeune fille, ce sont des parents qui vont prendre des photos et chercher, naviguer dans des familles, trouver un mari pour votre fille. Que la fille veuille ou pas, ou votre fils veuille ou pas, les parents vont obliger que ce mariage puisse se faire. Donc, il y a beaucoup de cas, il y en a toujours. On voit des malades qui viennent à cause de ça. Et ça, ça affecte leur vie. Ça crée des conflits énormément pour la vie avec le parent qui doit attendre. Je ne vais pas être en contact avec ma famille parce que je n'ai pas voulu. On m'a envoyé d'aller épouser cet homme. Cet homme est en train de m'abuser. Donc, on voit des cas pareils. Et puis, si c'est l'enfant qui est en dessous de l'âge de 18 ans, mon travail de psychothérapeute est comme si tu travailles aussi avec le système de la cour, tu travailles en collaboration avec la police, tu vas faire un rapport. Et le système, par exemple, le bureau de l'avocat général, et ils suivent des cas pareils, c'est comme des cas d'exploitation sexuelle.
Ne manquez pas de vous rendre sur notre site internet voaafrique.com, notamment dans les rubriques Femmes et Genres et LMF, dans lesquelles vous pouvez lire des articles, voir des vidéos, écouter des interviews et reportages parmi bien d'autres choses. Merci beaucoup de rester fidèles. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Merci beaucoup de rester avec nous sur VOA Afrique. Virginie Kamwene, des cas d'exploitation sexuelle pure, est-ce que vous en avez aussi? Et là, comment vous les traitez et comment vous parvenez à les signaler de manière à ce que les personnes concernées, les victimes, soient réellement en sécurité?
Oui, j'avais eu des cas pareils. Ça, ce sont des cas qu'on voit. Si tu vois une personne, un enfant qui est en train de faire face à l'exploitation, directement, il y a le système de département Child Protective, DCF. Dès qu'il arrive dans ton bureau, quand tu consultes, sur le champ, il y a un numéro que tu dois appeler. Et maintenant, ils ont des équipes. Ils vont être dans le cas à aller pour secourir la personne. La police va commencer à traquer l'individu qui est en train de faire l'exploitation sexuelle.
Pour que ces victimes, ces jeunes victimes puissent avoir accès à vous ou ces femmes qui seraient en danger et qui dans un premier temps ne voudraient peut-être pas aller à la police par crainte ou autre, mais parler avec une personne comme vous, comment elles font pour vous joindre si elles ne vous connaissent pas?
Mon expérience de ces côtés-là, quand je faisais ma première maîtrise, j'ai travaillé comme stagiaire dans le département des violences domestiques. Et dans les hotlines-là, que tout le monde appelle 24 heures sur 24, quand tu appelles ce numéro-là, il y a toujours une clinicienne dans ce numéro. Tu leur assures que c'est confidentiel. Quand j'ai travaillé dans les hotlines, mon bureau était dans le bureau de la police. La police maintenant prend ces référents-là, ils envoient dans des cliniques pour qu'on trouve des psychothérapeutes. C'est comme ça que ça se passe.
Voilà, donc vous, c'est à partir de là que vous intervenez. Madame Kamwene, on sait que de nombreuses personnes aussi en Afrique sont victimes, surtout des jeunes filles, de violences sexuelles, de mariages forcés, etc. Comment vous voyez le problème d'une manière globale en Afrique, hormis la question des lois, bien sûr les lois, mais pourquoi, selon vous, parce que les chiffres le disent malheureusement, ça n'avance pas beaucoup, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de changements, si peu de progrès?
Ça, c'est le grand problème que je dors, je me réveille chaque jour avec les problèmes de l'Afrique, les problèmes de la femme, de la violence sexuelle aux enfants, les problèmes de mariage forcé. Moi, avec mes amis experts américains qui sont aussi psychologues, cliniciennes comme moi, nous sommes en train de travailler sur un projet. Je pense que si tout va bien, l'année prochaine, nous allons travailler en collaboration. Le système au Congo, c'est un grand problème que j'ai au cœur. On va créer un centre de santé mentale, on va appeler ça Wellness Center. J'ai des experts derrière moi qui travaillent dans le même domaine et je descends aussi comme je suis expert en matière de l'autisme pour amener des solutions, pour amener des interventions, des outils pour traîner les gens, enseigner que ces enfants-là ou ces femmes-là ont droit à des services mentaux. Et on va chercher des systèmes, comment le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement fait pour ces gens-là pour avoir, pour bénéficier, comme le gouvernement américain a instauré des systèmes là, les citoyens du pays sont des ayants droit de les assister avec des services pareils.
Madame Kamwene, justement, vous venez d'en parler, le problème de la santé mentale, vous l'avez dit au début de l'interview, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte vraiment en Afrique et c'est culturel. Hein. Et l'on sait qu'en Afrique, hein, comme partout, il y a de nombreux enfants autistes. Et vous-même, vous êtes maman d'un garçon autiste. Qu'est-ce que vous conseillez en attendant tout ça? Parce que comme vous venez de le dire, l'on sait qu'il y a peu d'experts sur ces questions-là et que la plupart des enfants autistes... dans beaucoup de régions africaines, malheureusement, restent cloîtrés à la maison et on ne s'occupe pas d'eux. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui se trouvent dans de telles situations avec un enfant autiste?
Ça, c'est mon rêve qui se réalisait. Je n'ai pas honte de parler de mon fils, même si je suis venue d'une culture, d'une population qui souffre de l'ignorance. Quand je suis arrivée, je suis une maman, d'abord des quatre enfants très intelligents, deux garçons, deux filles, et le dernier, c'est lui le garçon de 9 ans qui a les troubles de spectre. Mon expérience, être une Congolaise, parce que je suis la fondatrice des groupes de support des parents noirs qui élèvent les enfants avec l'autisme. J'ai donné le courage aux parents, spécialement africains, parce que nous avons honte de parler de l'autisme. Au Congo, en Afrique, les gens croient que l'autisme, c'est la sorcellerie. Les gens croient que l'autisme, c'est quelque chose, la famille ou une malédiction qui a suivi. Mais l'autisme, c'est un trouble mental qui affecte le social, qui affecte le langage, qui affecte l'habilité de l'enfant à digérer la matière. Mais l'autisme, c'est... évoluer au fur et à mesure que la personne grandit, ça peut changer avec le structure, avec des interventions, des modalités. Les enfants qui ont des troubles de langage, s'il y a le service de langage, que ces enfants atteignent ça à l'école. L'autisme, c'est la dédication des parents et ça doit donner des changements. Je suis un témoignage, un exemple. Avec mon fils, il a changé ses façons de fonctionner du jour au jour.
Aux États-Unis, on peut intégrer un enfant autiste à l'école publique hein, qui peut être suivi par une personne experte au sein même de l'école publique. Alors, est-ce que vous pensez que certains gouvernements africains pourraient adapter des processus où l'enfant serait pris en charge? Pris en charge parce qu'on peut avoir un enfant autiste et être pauvre, donc on ne peut pas payer d'école spécialisée à son enfant et en plus de cela, il faut qu'il y en ait une école spécialisée.
C'est ça le combat, c'est ça mes intentions que je suis en train de plaider. Exactement comme tu as dit là, aux États-Unis, c'est une prise en charge. Avoir un enfant avec l'autisme, ce n'est pas quelque chose de facile. Et chez nous, en Afrique, là, il y a la pauvreté. D'abord, on ne reconnaît même pas cette population. Cette population est marginalisée, discriminée. Nous voulons que notre gouvernement, nous voulons que le Sénat tienne compte de cette population comme citoyens de pays bénéficiant de ces aides-là. Si le gouvernement peut un peu voir comment prendre cette population, ces gens-là en charge, les personnes avec handicap, en général aussi, pas autisme seulement, penser à eux qu'ils ont droit à des bénéfices parce qu'ils ont de l'handicap, ils ne travaillent pas et leurs familles sont pauvres. Ici, mettre l'enfant dans une école appliquée, c'est le problème des prises en charge du gouvernement. Si l'enfant a des troubles de langage, le gouvernement va mettre un budget pour acheter des modalités de software, une technologie que l'enfant peut communiquer avec. On essaye d'inclure, inclusion, on dit, mettre tout le monde ensemble, ne pas discriminer. Essayer un peu d'avoir un cœur de tourner un peu l'œil, de voir cette situation. L'autisme est en train de battre le record en Afrique maintenant.
Virginie Kamene, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur ce formidable métier que vous pratiquez. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute ici aux États-Unis, dans le Massachusetts. Vous êtes également fondatrice de Merrimack Valley, une clinique spécialisée sur les questions de l'autisme. Et vous êtes spécialisée sur le soutien aux familles d'une manière générale, la violence faite aux femmes, le soutien aux enfants, etc. On vous remercie beaucoup. Vous dites bonne chance et à très bientôt.
Merci Nathalie. On va continuer en tout cas. Je suis contente. Merci beaucoup.
Entre parenthèses.
En République démocratique du Congo, des femmes ont remis 900 000 francs, soit 450 dollars, à la justice à Lubumbashi le 4 novembre pour l'acheminement au tribunal de 10 détenus accusés du viol collectif de plusieurs prisonnières. Fin septembre 2020, 56 prisonnières ont été violées 3 jours durant lors d'une mutinerie dans la prison de Kasapa. Le parquet poursuit 10 prisonniers identifiés comme auteurs de ces viols qui ont transmis le virus du sida à 3 femmes et provoqué 16 grossesses. À l'ouverture du procès le 28 octobre, l'audience n'a pu se tenir, le parquet ayant affirmé manquer de moyens pour transporter jusqu'au tribunal les inculpés détenus dans 2 prisons à 120 km de Lubumbashi. Le pape François a nommé le 4 novembre la première femme à la tête du gouvernorat du Vatican, la sœur franciscaine Raffaella Petrini, qui est ainsi devenue la femme la plus haut placée de l'Église catholique. En tant que secrétaire générale du gouvernorat, la religieuse italienne sera chargée de superviser les opérations administratives, notamment la police, la poste et les musées du Vatican. Ce poste est traditionnellement occupé par un évêque. Le 6 février, le pape a nommé une femme comme sous-secrétaire du synode des évêques, la sœur française Nathalie Bécard de la congrégation des Xavières, première femme à occuper ce poste avec droit de vote sur les questions de doctrine. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.